le magazine des Nations Unies.
Ebola dans les provinces du Nord Kivu et en Ituri. L'épidémie déclarée une urgence sanitaire de portée internationale. Une déclaration de l'Organisation mondiale de la santé OMS le 17 juillet 2019. Des détails dans cette édition. Oxfam RDC accueille favorablement la déclaration de l'OMS faisant d'Ebola une urgence sanitaire de portée internationale. Pour sa directrice pays, cette déclaration est une avancée dans la prise de conscience internationale de la crise Ebola. Corinne Dao est l'invitée de notre magazine. Égalité de sexe en RDC. Président, vice-président et questeur des assemblées provinciales étaient à Kinshasa cette semaine dans un dialogue dit de haut niveau pour voir comment renforcer leur rôle dans la mise en œuvre de l'agenda de l'égalité des sexes en RDC, initiative du PNUD. Et dans la partie décryptage de cette émission, vous serez également l'entretien de François Elika, expert de cette agence onusienne, à ce sujet.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce magazine. L'épidémie de la maladie à virus Ebola frappe depuis maintenant près d'une année deux provinces du pays, le Nord Kivu et l'Ituri. Depuis le mercredi 17 juillet dernier, cette épidémie a été déclarée comme une urgence de santé publique de portée internationale. Et à cette date, le cumul des cas était de 2522, dont 1698 décès. La portée de cette décision de l'Organisation mondiale de la santé, avec vous, Honoré Misenakalala.
La déclaration de l'OMS est intervenue trois jours après le décès du malade de la ville de Goma qui venait de connaître son premier cas depuis l'apparition de l'épidémie il y a près d'un an à Beni Butembo. L'urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle à laquelle recourt l'OMS. Dans le cas présent, elle se justifie par le fait que Goma est une ville reliée par voie terrestre et ou aérienne au Rwanda, à l'Ouganda, à Kinshasa, la capitale de la RDC, ainsi qu'à l'Éthiopie. Alors, cette urgence mondiale signifie, selon les règles de l'Organisation mondiale de la santé, que la situation est grave et pourrait entraîner des conséquences sanitaires au-delà des frontières de la RD Congo. Cela exige donc une réaction immédiate de la communauté internationale, notamment en termes de moyens financiers et logistiques. Il est temps que le monde entier prenne connaissance et redouble d'efforts. Nous devons travailler ensemble de manière solidaire avec la RDC pour mettre fin à cette épidémie et construire un meilleur système de santé, a déclaré à ce propos dans un communiqué le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.
Nous l'avons dit dans le sommaire, président, vice-président et questeur des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces étaient en Matéli à Kinshasa cette semaine. Pendant trois jours, du 17 au 19 juillet, ces élus provinciaux se sont penchés sur comment favoriser davantage la présence de la femme dans les institutions du pays. Une initiative du PNUD en collaboration avec le ministère de Genre, Famille et Enfants. Honoré Misenakalala pour plus de détails.
C'est la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safou, qui a présidé le vendredi 19 juillet la cérémonie de clôture des travaux. Elle a salué le travail abattu par les participants.
Je suis ravie et édifiée sur la qualité du travail abattu. Ceci prouve la suffisance du sérieux que vous avez mis et de la lucidité avec laquelle vous avez abordé les différents contours qui ont émaillé les échanges relatifs au renforcement des capacités sur le concept de genre et tout ce qui en découle.
Même sentiment d'un travail bien fait dans le chef du PNUD, initiateur de l'atelier. Pour cette agence onusienne, le genre implique la nécessité de la justice entre les hommes et les femmes.
Au regard de ces considérations, le PNUD note que la question du genre est une question de justice entre les hommes et les femmes, mais également une question d'accès aux opportunités de développement équitable entre les femmes et les hommes.
La présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, Gertrude Kitembo, est sur la même longueur d'onde, mais elle étend le concept genre au-delà des sexes.
C'est un grand plaisir, comme vous pouvez vous en douter, parce que la matière qui était traitée concerne, c'est vrai, tout le monde, mais plus ou moins spécifiquement, ça concerne les femmes. Et beaucoup de gens croient que quand on parle de genre, c'est seulement la femme. Quand on parle des genres, c'est une question de justice. On pourrait dire toutes les personnes qui se sentent marginalisées, notamment les femmes, les autochtones, les personnes vivant avec handicap, les personnes qui vivent avec le VIH, et toutes les personnes qui se sentent marginalisées sont concernées par la question du genre, c'est une question de justice.
Deux grands axes sont à retenir de cet atelier de Kinshasa. Ce forum parlementaire sur le genre se tiendra chaque année dans une province de la RDC, c'est le premier acte. Et le deuxième, un plan d'action consensuel a été élaboré et adopté en rapport avec le genre.
Nous reviendrons sur ce sujet dans la rubrique décryptage. Le ministère de la Santé organise du 22 au 23 de ce mois de juillet ici à Kinshasa un forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC. C'est en collaboration avec l'UNICEF, l'USAID, la Banque mondiale et d'autres partenaires et sous le patronage du président de la République. L'annonce a été faite mardi dernier dans un briefing avec la presse par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture de la maladie universelle. L'objectif de ce forum est d'obtenir l'engagement des gouverneurs de province sur la campagne de vaccination pour une meilleure couverture nationale. Notez que la presse a été également conviée à relayer les informations relatives à cet événement ainsi qu'à la campagne. Autre précision avec Jean-Pierre Ilali Koko.
Le communiqué remis à la presse souligne la recrudescence des maladies infectieuses comme la polio, la rougeole, la maladie à virus Ebola et le choléra. Les causes sont nombreuses, la faible couverture sanitaire, les conflits, la faible qualité des soins et les crises politiques pour ne citer que celles-là. Et le conseiller spécial du chef de l'État, le docteur Roger Kamba, d'ajouter que les familles congolaises à elles seules supportent 46% des charges des soins de santé. Une telle situation ne peut continuer, a-t-il dit, d'où la nécessité selon lui de mobiliser et d'engager les responsabilités des autorités provinciales et nationales en vue de maximiser les moyens pour assurer l'accès à la vaccination à tous les enfants de la RDC. Ces forums de deux jours permettront donc d'analyser le défi de la vaccination et de dégager les recommandations, les perspectives et les engagements ainsi que la responsabilité des parties partenaires. Selon les programmes élargis de vaccination, il est pour l'instant difficile de faire une projection du taux d'enfants à vacciner dans l'avenir, tout dépendant des moyens disponibles, du contexte sécuritaire et de l'engagement de tous.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comme promis, le magazine des Nations Unies reçoit François Elika en marge de l'atelier sur l'égalité de sexe organisé cette semaine à Kinshasa. François Elika est un expert du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en partenariat et mobilisation des ressources. Suivez plutôt l'expert dans cet entretien avec Honoré Missinga Kalala.
François Elika, bonjour.
Bonjour.
Trois jours de travaux avec des membres du bureau des assemblées provinciales sur l'égalité des sexes. Quelle est la motivation du PNUD qui organise ce forum?
Alors, le PNUD a fait l'évaluation du travail de prise en compte du genre dans le travail parlementaire à la suite de toutes les interventions antérieures qui ont été menées. Il est arrivé à la conclusion qu'il est absolument important de considérer les présidents des assemblées provinciales, y compris les autres membres du bureau, comme des personnes ressources appelées les champions du genre. Les champions du genre, c'est des personnes qui portent l'agenda de l'égalité entre les sexes et qui vont se positionner comme le point d'entrée de toutes les discussions. Alors le PNUD considère qu'en travaillant avec les membres des assemblées provinciales, la question du genre va mieux être prise en compte parce que les meilleurs ou les plus hauts décideurs de ces institutions infranationales se sentirait mieux impliqué qu'avant.
Donc vous pensez que ces présidents des assemblées provinciales sont d'office des champions du genre?
Les champions du genre, c'est des personnes consacrées au regard de leurs responsabilités, qui comprennent que, en termes de leurs responsabilités, ces personnes ont été élues pour servir l'intérêt de la nation, l'intérêt de la population. Et dans la population, il y a les hommes et les femmes. Et donc, en les accompagnant pour que ces personnes œuvrent dans le sens de tenir ou de prendre en compte le fait que les hommes existent avec des besoins, les femmes existent avec des besoins et qu'il faut de politiques qui puissent intégrer ces besoins, il faut de lois ou des édits au niveau de province qui puissent intégrer ces besoins, nous aurons fait un pas considérable.
François Erika, au-delà du forum lui-même, votre agence, c'est-à-dire le PNUD, appuie le leadership parlementaire. Pourquoi cet intérêt particulier aux institutions parlementaires?
Les institutions parlementaires constituent un maillon important dans la gouvernance publique en République démocratique du Congo comme à travers le monde. C'est des institutions d'abord qui représentent le peuple, leur mission de représentation. C'est des institutions qui contrôlent l'action gouvernementale, leur fonction de contrôle. mais c'est aussi des institutions qui jouent le rôle important dans la production de normes, donc la mission de la législation. Et donc, nous voulons que lorsque ces institutions sont mieux sensibilisées sur la question du genre, qu'elles puissent interagir en interpellant, en contrôlant le gouvernement pour s'assurer que la gouvernance qui est mise en place est une gouvernance qui produit des effets importants en termes de politique, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Qu'il n'y ait pas des inégalités, et là où il y a inégalité, on peut le corriger à travers la réforme de loi, comme on l'a fait avec le code de la famille, à travers l'allocation de crédits budgétaires importants pour améliorer la prise en compte des besoins des hommes et des femmes dans les secteurs de l'éducation, par rapport à la question de l'accès à l'eau, à l'électricité, et ainsi de suite.
Alors, l'action du PNUD entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de l'égalité des sexes en RDC. Quel est cet agenda?
Cet agenda prend corps à travers la vision même de développement, qui est la vision du développement humain durable. Nous considérons que les efforts qui sont faits par le gouvernement sont des efforts louables, mais il est important que ces efforts répondent à deux critères. C'est le critère de durabilité et le critère de justice ou d'équité. Cette prise en compte de ces deux critères requiert que les hommes et les femmes, s'ils sont suffisamment impliqués et qu'ils jouissent de manière constante de leurs droits, ces hommes et ces femmes vont imprimer à la dynamique du développement une marque de durabilité importante. Le développement devient fragile lorsqu'il y a beaucoup d'inégalités, lorsque le déséquilibre est beaucoup plus prononcé en faveur des uns contre les autres, ainsi de suite. Donc ces écarts qui existent dans la société, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique comme au niveau culturel, ces écarts, lorsqu'ils sont considérables, freine l'émergence d'un véritable développement. Alors, l'agenda ici de l'égalité de sexe ou l'agenda du genre, c'est cet agenda au niveau du PNUD qui consiste à promouvoir la participation équitable des hommes et des femmes dans le processus de prise de décision. Donc, à ce niveau-là, on voit le critère de la représentativité et nous disons qu'il y a moyen de faire mieux. Là où le nombre n'est pas assez considérable, il est important qu'il y ait des réformes qui puissent viser à améliorer cette situation. En même temps, nous disons aussi que le gouvernement a ratifié un certain nombre de traités, d'instruments juridiques et politiques internationaux et les a même intégrés dans son ordonnancement juridique interne. Donc c'est des engagements. Il faut que ces engagements soient respectés parce que le gouvernement est jugé par l'opinion aussi bien nationale qu'internationale par rapport à sa capacité à honorer la parole. Donc nous avons ici des législations qui sont importantes, qui donnent déjà beaucoup de possibilités aux femmes, mais il y en a aussi qui doivent être réformées pour améliorer davantage l'environnement, le rendre plus sécure par rapport aux besoins des hommes et aux besoins de femmes, et donc amener ces hommes et ces femmes à jouir des avantages qu'offre la société.
Donc, pour le PNUD, le gouvernement de la RDC est déjà dans le bon, mais il faut qu'il fasse un peu plus que ça.
En tout cas, il y a beaucoup d'actes qui ont été posés, qui sont très très positifs et très favorables. Nous avons adhéré à plusieurs instruments et nous les avons même intégrés dans notre constitution, comme différentes législations aussi qui existent. Mais il faut reconnaître qu'il y a une tension, il y a un écart entre ce que nous appelons la normativité abondante et la normalité résistante au changement. Donc quand vous observez, nous avons beaucoup de lois qui sont bonnes, qui donnent beaucoup d'opportunités déjà aux femmes, mais ces lois sont très peu appliquées, encore que là où elles sont appliquées, il y a au niveau de la société de mentalité ou des dynamiques de mentalité qui sont encore résistantes et qui n'ont pas encore compris la nécessité d'intégrer un changement positif dans l'amélioration qualitative de rapport entre les hommes et les femmes.
Alors, après ce forum avec les parlementaires provinciaux, la suite c'est quoi pour le PNUD?
La suite c'est que ce forum est un prétexte au fait pour mettre en place une coalition parlementaire de champions du genre. Nous voulons avoir chaque année un forum parlementaire sur les questions du genre, un peu comme le forum des ministres en charge des questions du genre, qui puisse évaluer la question de la traçabilité, c'est-à-dire la prise en compte du genre dans leur province. Et ça va permettre aux assemblées de demander au gouvernement d'avoir une attention plus soutenue parce que les assemblées vont se retrouver pour évaluer dans notre province quel est le degré de prise en compte du genre à travers les lois, les édits que nous avons eu nous-mêmes à édicter et à travers les politiques publiques provinciales que nous avons eu nous-mêmes à formaliser. Et donc ça va favoriser un véritable dialogue, une véritable interaction entre l'institution parlementaire et le gouvernement provincial. Ça va aussi donner à la société civile la possibilité de disposer d'une feuille de route pour suivre et en même temps ça va donner aux médias bien aux chercheurs la possibilité d'avoir des matériaux d'information et d'analyse au niveau de leur recherche comme au niveau de leur travail en tant que communicateur. Donc c'est une sorte de toile d'institutionnalisation du genre que nous voulons mettre en place. Et l'idée derrière ça, ce n'est pas de se limiter là, c'est de travailler maintenant avec chacune des assemblées provinciales. En tout cas, nous avons là toutes les 26 assemblées provinciales que compte la République démocratique du Congo. Et nous voulons que nous puissions maintenant travailler de manière plus spécifique et beaucoup plus ciblée avec chacune de ces institutions pour en même temps les accompagner dans l'amélioration de leurs capacités, dans l'écriture de lois, ce que nous appelons la légistique, dans le travail de contrôle parlementaire, dans le travail de représentation, mais aussi dans le travail d'information, là où on a besoin d'interpeller le gouvernement pour savoir comment le ministre du genre au niveau de notre province arrive à promouvoir l'agenda du genre. Donc les députés aimeraient en savoir davantage, ils vont en savoir davantage et cela va constituer des éléments qui vont nourrir l'évaluation qui pourra donc être présentée ou déclinée lors de la tenue annuelle de chaque forum parlementaire.
François Elika, merci.
Merci beaucoup.
En plus bref, 10 millions de dollars américains, c'est la somme que Thomas Lubanga est tenu à payer au titre de réparation due aux victimes des actes pour lesquels il a été condamné. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI a pris cette décision à l'unanimité de juges le jeudi 18 juillet 2019, confirmant ainsi l'arrêt de la Chambre de première instance de cette Cour. De la justice à l'humanitaire, la représentante régionale du HCR, Anne Encontre, était cette semaine en visite de travail dans le Tanganyika. C'était pour évaluer la situation des personnes déplacées et auto-réfugiées dans cette province. Elle a rencontré sur place notamment les autorités locales. Des entretiens avec ces autorités ont tourné, entre autres, autour de la problématique de l'appui par les humanitaires et les agences du système des Nations Unies au retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Enfin, à Kindu, dans le Maniema, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et la Division provinciale de la santé ont lancé officiellement le 13 juillet dernier une campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales. L'UNFPA a appelé à cette occasion à une prise en charge adéquate des femmes pendant le travail d'accouchement afin de prévenir les complications, notamment les fistules obstétricales.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions en titre, Oxfam RDC accueille favorablement la déclaration de l'OMS faisant de la crise Ebola en RDC une urgence sanitaire de portée internationale. C'est une avancée significative dans la prise de conscience de l'ampleur de la maladie à l'échelle internationale et l'engagement communautaire, estime Corinne Dao, directrice pays Oxfam en RDC. Elle réaffirme l'engagement de son organisation à étendre ses activités dans les provinces affectées par cette épidémie. Corinne Dao s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Corinne Ndao, bonjour.
Bonjour, monsieur.
L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer la maladie à virus Ebola comme une urgence de santé publique d'intérêt international. Quelle est votre réaction?
Cette déclaration de l'Organisation mondiale de la santé, pour nous, est une avancée. Elle est très importante pour attirer l'attention du monde sur la crise Ebola en RDC. Nous accueillons ainsi très favorablement cette recommandation qui vise à accorder la priorité à l'engagement communautaire. Nous savons que le fait d'obtenir la confiance des communautés touchées par le virus a constitué un obstacle de taille et que le fait de se concentrer principalement sur cette approche médicale n'a pas été efficace. Ainsi, à travers cette nouvelle déclaration, l'engagement communautaire sera au centre de la réponse et nous sommes convaincus, à l'instar de l'ensemble des acteurs humanitaires, que ceci est une voie de sortie pour mettre un terme de manière définitive à la pandémie d'Ebola.
Et dans votre communiqué, madame, vous dites que vous êtes favorable à l'ouverture des frontières et la circulation des personnes et de leurs biens.
Quand il s'agit d'Ebola, c'est très important de pouvoir faire un dépistage efficace. Une réponse qui intervient dès les premiers jours a beaucoup plus de chances de prémunir l'ensemble de la communauté. L'ouverture des frontières pour nous doit être maintenue, ce qui permet un dépistage au poste officiel de transit. Les frontières, malheureusement, dans cette partie du monde, sont extrêmement poreuses. La fermeture des frontières entraînerait non seulement ça, des accès illégaux de populations sans pouvoir effectuer ce contrôle qui est nécessaire. En outre, n'oublions pas que cette fermeture de frontières peut avoir des conséquences désastreuses sur les flux économiques économique entre les pays concernés. C'est ainsi que nous supportons cette décision et nous avons bon espoir que favoriser les passages officiels plutôt que les passages informels pourrait ainsi contribuer à réduire la méfiance et la peur des communautés tout en les impactant positivement.
Une certaine opinion estime que la déclaration de l'OMS arrive bien tard et accuse les partenaires d'avoir minimisé l'ampleur de l'épidémie.
Je tiens à vous rassurer en disant que l'importance d'agir ensemble pour mettre fin à cette pandémie a toujours été une réalité. Le timing a eu certainement comme événement déclencheur la survenue du premier cas confirmé à Goma. Nous pensons que c'est toujours opportun et que cette décision arrive à un moment qui nous permettra ensemble d'avancer de manière beaucoup plus efficace dans la réponse à cette épidémie.
Et on sait bien que Oxfam est impliqué aussi comme d'autres partenaires, bien entendu, dans la riposte contre cette maladie. À quoi a consisté jusqu'à ce jour votre action sur le terrain? Et comment avez-vous pu contourner la réticence communautaire et des pesanteurs culturelles dans ces domaines?
Oxfam a été et demeure aux côtés des populations congolaises depuis plus d'un demi-siècle. Nous sommes connus pour notre action au niveau du terrain. Au niveau de la réponse globale à Ebola, Oxfam s'est focalisé sur l'engagement communautaire. La réponse d'Oxfam ainsi dans la lutte contre la maladie est axée sur la promotion de la santé publique et l'appui aux solutions proposées par la communauté pour rompre définitivement la chaîne de transmission du virus. Nous fournissons ainsi également de l'eau saine aux populations affectées et améliorons les infrastructures des centres de santé. Depuis le début de l'épidémie,
de la latrine aussi,
également, nous apportons une réponse intégrée, ce qu'on appelle communément le WASH, qui va au-delà de la provision juste de l'accès à l'eau potable pour aller sur les pratiques, les bonnes pratiques pour l'utilisation de cette eau, mais également les bonnes pratiques concernant l'amélioration du cadre de vie des populations, notamment en matière d'hygiène. Ainsi, depuis le début de l'épidémie, le 1er août 2018, nous avons touché environ 600 000 personnes. Et ceci est rendu possible parce que nous travaillons étroitement avec l'ensemble des acteurs, à commencer par les acteurs au niveau du terrain, au sein des communautés, jusqu'au sein de la cellule familiale. L'expérience d'Oxfam en RDC s'est également enrichi de notre intervention dans la récente crise Ebola à Mbandaka, qui a été rapidement jugulée parce que, justement, nous avons très tôt engagé les communautés, essayé très tôt d'utiliser des instruments pour pouvoir réduire cette résistance communautaire. Nous savons également que instaurer un dialogue ouvert avec les communautés et trouver des solutions sûres pour contenir le virus est très important. S'appuyer sur les agents de santé, les dirigeants locaux qui parlent la langue locale et en traitant les communautés comme des partenaires plutôt que comme des exécutants est un élément essentiel.
Là, vous avez parlé de l'implication communautaire. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le terrain, madame?
D'abord, je voudrais signaler quelque chose. Oxfam n'a pas commencé son travail avec les populations vulnérables maintenant. Lorsque cette pandémie s'est déclarée, nous avons accentué ce que nous faisions déjà avec les communautés. Nous appuyons sur les dispositifs existants. Nous travaillons avec les collectivités communautaires. Ainsi, si vous allez dans les zones où Oxfam est à la pointe de cette réponse, je vous parle de la région, des centres de santé, des aires de santé, de Beni, Boutembo, jusqu'à Mangina, vous verrez que Oxfam a fait essentiellement trois choses. La première des choses, nous avons renforcé les capacités des groupements locaux, ces communautés. Nous avons, deuxièmement, renforcé le dispositif d'accès à l'eau potable et les bonnes pratiques. Ceci a servi pour pouvoir établir la confiance et travailler à vaincre la résistance des populations pour accepter de lutter ensemble contre le virus Ebola. Et troisièmement, ce que nous avons fait, ce qui nous distingue, nous avons continué d'être la voix des sans-voix. Nous avons, à l'instar des autres acteurs communautaires au sein du Forum des ONG internationales, œuvré et fait un plaidoyer pour que le gouvernement et l'ensemble des acteurs acceptent que l'engagement communautaire soit un des piliers essentiels de la riposte Ebola. La déclaration de l'OMS aujourd'hui, pour nous, s'inscrit dans la droite ligne des résultats de ces plaidoyers que nous avons faits en étant la voix des sans-voix.
Mais Mbandaka, ça a été vraiment une réussite dans votre engagement, mais on remarque que dans le Nord Kivu, les choses n'ont pas aussi fonctionné comme on pouvait le croire.
Bon, c'est très important de faire le distinguo entre ces deux contextes. Ce qui distingue cette apparition d'Ebola, c'est qu'on a des dimensions qui n'existaient pas en Bandaka, notamment la dimension sécuritaire. Les zones où se déclare Ebola de plus en plus sont les zones où il y a de l'insécurité. La difficulté d'accès à ces zones rend beaucoup plus complexe l'engagement communautaire. Pour des raisons de sécurité qui sont malheureusement sous-tendues par des causes profondes qui peuvent être tant sociologiques que même politiques, il est difficile pour nous d'avoir accès à certaines zones. Ainsi, vous voyez que souvent, la difficulté de pouvoir identifier les contacts, de pouvoir s'assurer que ces contacts puissent être pris en charge rapidement, contribue à l'expansion de cette épidémie. Pour stopper la chaîne, il faut ainsi, comme nous l'avons toujours dit, avoir une approche holistique, c'est-à-dire aller au-delà de la réponse médicale pour regarder et s'appesantir sur les causes profondes, notamment sécuriser cette zone et avoir un dialogue inclusif pour que l'ensemble des acteurs soient conscient de l'effort collectif qui est nécessaire. Dans un environnement qui n'est pas sécurisé, c'est difficile de pouvoir apporter une réponse durable. Mais nous avons bon espoir. Avec maintenant le regain d'intérêt qui est suscité par cette déclaration récente de l'OMS, nous aurons maintenant la communauté internationale de plus en plus impliquée. Ceci a été le centre du plaidoyer d'Oxfam depuis longtemps et nous nous réjouissons de voir cela se matérialiser.
Maintenant qu'elle est déclarée une urgence, donc cette épidémie à virus Ebola, comment allez-vous, Oxfam, réqualifier ou adapter vos interventions?
Maintenant que nous avons le premier cas déclaré à Goma, nous allons enclencher ce qu'on appelle nos plans de contingence. On va porter à l'échelle nos interventions, c'est-à-dire qu'on va élargir de manière géographique la zone de couverture de nos interventions. Nous allons également accentuer notre engagement communautaire et renforcer l'ensemble de nos interventions. La réponse directe, c'est que nous ferons une montée en puissance en accord avec l'ensemble des acteurs.
Et cela implique un nouveau financement, madame?
Cela implique un nouveau financement. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de voir que maintenant, ceci a été qualifié d'intérêt mondial, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de latitude à mobiliser des financements en appui de la réponse à cette pandémie. Les financements à mobiliser sont intimement liés à l'intérêt suscité auprès des donateurs, mais également à l'intérêt suscité auprès de chacun de nous. Donc, c'est pour ça que, dans mon propos liminaire, je vous ai dit que nous nous enthousiasmons et que nous sommes satisfaits de cette récente déclaration de l'OMS.
Madame Corinne Ndao, je vous remercie de votre engagement.
Nous restons dans le domaine de la santé et nous nous rendons à Kananga, au Kasaï central, où l'UNFPA a apporté son appui à une campagne de dépistage volontaire du VIH et de promotion de l'usage correct du préservatif. C'est une initiative du PNMLS, Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida. Son secrétaire exécutif, Jean-Carré Mansimba, a appelé à cette occasion toute la communauté de cette province à s'y impliquer. Il est ici au micro de François Kadima.
La campagne de ces jours consiste à la sensibilisation des populations et des populations clés sur la prévention du VIH. Nous faisons une prévention combinée, c'est-à-dire nous utilisons les stratégies cliniques et communautaires. Ici, nous sensibilisons les populations pour leur informer de voies de transmission du VIH, de voies de prévention et surtout le stimuler à accepter un dépistage volontaire afin de connaître l'état sérologique. À cette campagne, nous avons l'aspect planification familiale parce que nous y faisons aussi l'offre gratuite de préservatifs.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Nous revenons sur la question posée au responsable de l'UNFPA par Jean-Pierre Ilali Koko au sujet prochain recensement de la population en République démocratique du Congo. Suivez la réponse du professeur Pierre Clissou, conseiller principal au recensement à cette agence. C'était au cours d'un dîner de presse organisé le 9 juillet dernier à Kinshasa.
Nous avons pratiquement fini d'élaborer tous les outils techniques, questionnaires, les manuels, les fiches, tous les documents qui accompagnent ce processus sont prêts. La RDC a choisi de faire ce deuxième recensement grâce aux nouvelles technologies, donc l'utilisation des tablettes. Le budget du RGPH tourne autour de 200 millions de dollars. La RDC doit aller vers une table ronde des partenaires du RGPH. Et c'est ça que nous préparons tout doucement.
Magazine des Nations Unies. tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Trois événements à retenir pour la semaine qui commence. Ouverture demain lundi ici à Kinshasa du forum sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC. Ce forum est organisé par le ministère de la Santé sous le patronage du président de la République. Retenons aussi que le 29 juillet prochain, c'est la journée internationale pour la diversité socio-culturelle et celle de lutte contre la discrimination a lieu le 29 juillet. Voilà, c'est la fin de cette émission qui a connu la participation de Jean-Pierre Elaïe Koukoua, la coordination, la réalisation et reportage. Honoré Missenga Kalala au reportage. Moi, c'est Baben Pongo Massimango. J'étais à la présentation avec Mimi Kindou à la technique. Toute cette équipe du magazine des Nations Unies vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure, toujours sur la fréquence de la paix. Excellente journée dominicale à vous tous.